nous sommes encore en dehors de la basilique. Mais cela ne fera que redoubler nos prières, afin que ce sanctuaire garde toujours la fidélité à sa vocation première. Il convient, en ce départ, de rappeler, même brièvement, le pourquoi de ce pèlerinage, pour bien rester dans le cadre que nous nous sommes fixés. Le pèlerinage est avant tout une manifestation publique de notre foi, de notre amour envers notre Seigneur Jésus-Christ et envers sa très sainte mère, la Vierge Marie. Pendant 3 jours, nous crierons, nous chanterons à notre Seigneur que votre règne arrive, afin que le monde n'oublie pas le pourquoi de votre incarnation et de votre rédemption. Le pèlerinage sera aussi une réparation publique des crimes de l'avortement. Cela est l'intention officielle et première de ces 3 jours de prière et de pénitence. Bien sûr, nous offrirons aussi cette marche pour toutes les grandes intentions de l'Église. Enfin, notre pèlerinage est une démarche missionnaire, non seulement pour le témoignage que nous rendrons autour de nous, mais surtout, il doit être pour chacun de nous une occasion de sanctification, c'est-à-dire de conversion personnelle. Cela exige de demander pardon de nos péchés, de changer de vie, de réparer, c'est-à-dire par nos péchés, par nos sacrifices et nos mortifications, de payer la dette due au péché. Voilà le pourquoi du pèlerinage. Le thème, vous le connaissez, de Notre-Dame au Sacré-Cœur, source de vie. Ce thème nous guidera et nous aidera. Combien il est plus facile d'aller à Jésus par Marie, de se faire accompagner vers le Seigneur par sa très sainte mère, et du cœur de Jésus, transpercé par la lance, se déversera une quantité infinie de grâce sur nos âmes. Ce cœur de Jésus abondera de grâce spécialement à l'occasion des 3 messes de notre pèlerinage, les 3 temps forts spirituels. Puis, les ministres de la grâce, venus ici nombreux, et je les en remercie, seront là pour purifier vos âmes. Profitez-en. La messe, la confession sont nées de la croix du cœur de Jésus et sont pour nous la vraie, la seule source de la vie surnaturelle. C'est pourquoi le Sacré-Cœur et source de vie. Nous n'avons d'autre ambition que de redonner les âmes à Dieu et Dieu aux âmes. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un très bon pèlerinage, témoigner publiquement votre foi, réparer les crimes de l'avortement et convertissez-vous. Avant la messe, nous avons la joie de vous lire un message adressé à tous les pèlerins par son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre, aujourd'hui principal défenseur de la foi dans les temps d'apostasie générale. Bien chers pèlerins, cette année, votre pèlerinage va prendre son départ à Notre-Dame de Chartres pour vous mener à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, comme si vous sollicitiez de Notre-Dame la grâce de vous accompagner et de vous conduire au sanctuaire du cœur de son divin Fils. Ce faisant, vous allez de nouveau manifester publiquement votre foi catholique en l'unique Sauveur du monde et en sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Ce témoignage est aujourd'hui plus nécessaire que jamais afin de rendre hommage au Roi des nations, Roi du ciel et de la terre, et de proclamer sa loi de charité, seule source et expression des devoirs et des droits de l'homme. Soyez félicités de cet hommage que vous rendez à notre Seigneur et à Notre-Dame, et que cette démarche vous comble de bénédictions, ainsi que tous les pays que vous représentez. De tout cœur et par la prière, nous cheminerons avec vous. Écône, le 8 mai 1990, Marcel Lefebvre, archevêque, évêque émérite de Tulle, fondateur de la Fraternité Saint-Pie-X.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers pèlerins, nous sommes au pied de cette cathédrale. Nous sommes réunis à la fois au pied de la Vierge Marie et au pied du sacrifice de son divin Fils, ce sacrifice de la messe qui inaugure cette marche que nous allons faire pendant 3 jours. Nous nous apprêtons à prendre notre élan sur ces routes, cet élan qui, au son de nos Ave, nous conduira jusqu'au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'une façon encore plus belle, non seulement au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais à l'endroit même où il est planté, au cœur de notre beau pays de France. Puisque cette basilique de Montmartre, qui est notre terme, basilique du vœu national, est comme le cœur qui bat au rythme qui a fait notre pays. C'est ce lien qui unit ces deux cœurs, le cœur immaculé de Marie, auquel nous nous confions dès ses premières minutes, pour aller jusqu'au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce lien mystérieux entre ces deux cœurs qu'est issu tout ce qui a fait la chrétienté et ce qui a fait notre pays qui était au cœur de la chrétienté. Nous partons au pied de cette cathédrale, posée comme une arche, comme une nef, pour être un sanctuaire, c'est-à-dire pour abriter ce que le ciel et la terre ne peuvent contenir, pour abriter Dieu. À l'intérieur d'une cathédrale, et si l'on a construit une cathédrale, avec toutes ces pierres, ces décorations, ces vitraux, ces sculptures, dont nous ne connaissons même pas tous les secrets, c'est avant tout pour la majesté de quelqu'un, c'est pour la majesté de Dieu, pour la majesté du Fils de Dieu fait homme par amour pour nous. Et à l'intérieur de ces cathédrales, où tout respire la paix, le silence, le recueillement, on a l'impression que du côté du tabernacle, il y a comme un secret, comme un mystère que l'on garde jalousement. L'architecture même de ces églises est faite pour être centrée sur ce mystère. Elle est faite non pas comme on le fait souvent maintenant par erreur, pour être centré sur le siège du prêtre, mais cette architecture est faite pour être centrée sur le tabernacle, c'est-à-dire sur le sanctuaire sacré, mystérieux, secret de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il abrite tous les trésors de son amour infini pour les âmes qui viennent le prier dans le silence. Tout est centré sur l'autel, parce que tout est centré sur le sacrifice, tout est centré sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrifice est un sacrifice d'amour. Nous commençons notre marche par ce sacrifice qui est un sacrifice d'amour. Nous croyons, nous professons cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous rentrons dans une église ou dans une cathédrale, nous nous apercevons que la seule lumière qui nous permet d'apercevoir ce tabernacle si saint est une lumière diffuse, est une lumière qui n'est pas cette lumière purement matérielle issue du soleil, mais elle est cette lumière qui est diffusée par les vitraux. Et il y a un symbolisme magnifique en cette cathédrale de Chartres, où pas une face ne comporte un vitrail de la Vierge. Partout, vous avez des vitraux de la Vierge. Et vous pouvez vous dire que cette lumière qui est diffuse à l'intérieur de cette cathédrale est une lumière qui est toujours passée par un des vitraux, par un des rayons de la Vierge. Même le vitrail central, qui représente toute la vie du Christ, est surplombé par une magnifique Vierge à l'enfant, qui de son regard majestueux domine toute cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule lumière qui vous permet d'apercevoir le sanctuaire, qui vous permet de vous rendre compte à l'intérieur de l'Église que c'est le sanctuaire de Dieu, c'est une lumière qui est passée à travers les lumières du cœur immaculé de Marie. Et vous avez là tout le sens, toute la symbolique, toute l'explication de notre pèlerinage. Nous marchons vers un sanctuaire qui représente la chrétienté, la France, qui représente tout ce que notre cœur aime, parce que notre cœur aime le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au sein de nos familles, de nos institutions et de nos âmes. Mais ce cœur du Christ, nous ne le découvrirons qu'à travers les lumières que nous donnera la Vierge, au travers de toutes ces marches, de ces journées, de ces fatigues, de ces Ave Maria que nous égrènerons. Nous prendrons donc un certain nombre de résolutions qui nous permettront d'être fidèles à ce chemin, à ce thème de notre pèlerinage, d'arriver au cœur du Christ par le cœur de Marie. La première de ces résolutions, c'est d'abord de se reconnaître pécheur. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Saint Jean, dans sa première épître, nous dit que lorsque nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, nous sommes un menteur, la vérité n'est pas en nous. Nul d'entre nous ne peut prétendre avoir été exempt de péché. Nous avons tous besoin de cette miséricorde de Dieu et nous avons donc tous besoin de faire pénitence. Et si nous marchons, c'est pour faire pénitence. Nous marchons en esprit de pénitence. Un pèlerinage est une marche de pénitence. Toute notre vie, nous devrons faire pénitence. Vous avez un des vitraux de cette cathédrale, sur la face nord, qui représente Saint Jean l'Hospitalier. L'histoire de Saint Jean l'Hospitalier est une histoire qui nous montre comment Dieu considère que notre vie doit être une vie de pénitence et comment il la récompense à la fin. Cette histoire est racontée sur ce vitrail. Saint Jean l'Hospitalier avait prêté son bras comme chevalier pour toutes les grandes causes qui étaient les causes de la chrétienté. Et après avoir servi de nombreuses années, il rentre dans son château et au stupeur, alors qu'il arrive dans sa chambre, il découvre qu'il y a deux personnes dans sa chambre. De fureur, n'étant pas capable de contenir sa colère, pas maître de lui-même, il tue les deux personnes. Il sort et il rencontre sa femme qui rentrait de la messe et qui lui dit « Tes parents étaient de passage, j'ai trouvé bien de leur prêter notre grande chambre à nous. » Saint Jean, ce futur Saint Jean, s'est aperçu qu'il s'était laissé emporter par une colère irréfléchie, qu'il n'avait pas été capable d'être maître de lui-même, encore moins de voir s'il avait une possibilité de pardon. Saint Jean s'est mis à pleurer, non seulement l'acte qu'il avait fait, mais il s'est mis à pleurer son péché. Et d'un commun accord avec sa femme, ils sont allés s'installer dans une petite maison, en se disant « il faut que nous fassions pénitence, pénitence pour ce péché, pénitence pour mériter le ciel ». Et pendant des années, dans cette petite maison qui était au bord d'une rivière, leur pénitence a consisté à faire passer les gens qui avaient besoin de passer la rivière, à les accueillir toujours avec le sourire, à leur donner le vêtement, le logis, la nourriture. Toute leur vie a été une vie de pénitence. Et ce n'est qu'à la fin qu'un jour ils ont trouvé une personne qu'ils ont fait passer, plus radieuse et plus belle que toutes celles qu'ils avaient vues jusque-là. Cette personne, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur a dit « Maintenant, vous avez assez fait pénitence, je viens vous chercher, c'est moi qui vais vous faire passer, et je vais vous faire passer dans mon paradis. » Nous avons tous besoin de pénitence. Et un jour, le Christ viendra nous dire « Peut-être maintenant, tu as fait pénitence, le ciel t'est ouvert, mais pour l'instant, tu es sur cette route, tu es sur cette route de la vie, fais pénitence, offre ce pèlerinage en pénitence, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. » Et si nous prétendons ne pas en avoir besoin, nous sommes hors de la vérité, comme nous le dit Saint Jean. La deuxième de ces résolutions est pour nous toute une explication et toute une lumière de notre vie spirituelle. C'est de croire, je dis bien de croire, c'est-à-dire de faire un acte de foi en la miséricorde de Dieu. Avoir besoin de demander pardon, c'est vrai, mais nous pourrions sombrer dans le désespoir. Et nous n'avons pas le droit au désespoir. Nous sommes chrétiens et nous avons cette joie et cette fierté d'être chrétiens parce que nous avons une espérance qui dépasse toute espérance. Cette espérance, elle est de tomber à genoux face au cœur immaculé, face au cœur ouvert de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rappelle qu'il a aimé jusque-là, qu'il est toujours prêt à pardonner. Et pour vous tous, chers pèlerins, qui chercherez pendant ces jours de marche à recevoir la grâce de la Sainte Absolution, la plus grande des grâces que nous puissions recevoir tout au long de notre vie. Méfiez-vous de ces pièges du démon, de ces pièges du démon qui nous font croire qu'il n'y a plus d'espérance pour nous. Combien de fois rencontre-t-on de ces âmes qui ne comprennent plus pourquoi se confesser parce qu'elles retombent dans les péchés, mais qu'elles croient en cette miséricorde infinie de Dieu qui pardonne 7 fois, 77 fois, 7 fois, et que toujours est prêt à nous relever, comme quelqu'un qui se penche sur une misère qu'il comprend profondément. Combien de fois rencontre-t-on de ces gens qui, enlacés dans les péchés, dont ils ne savent pas comment sortir, dans des situations qui leur semblent inextricables, ne veulent pas faire la démarche, ne serait-ce que de venir vers le prêtre en disant « Je n'ai pas l'impression que je puis recevoir l'absolution, mais que pouvez-vous faire pour moi ?» Y a-t-il un chemin de la miséricorde de Dieu ? Mais il y en a un. Il exige pour nous parfois du courage. Il exige pour nous de nous convertir, de modifier notre vie. Mais il exige aussi de croire que Dieu est toujours prêt, si nous y mettons un tout petit peu du nôtre, est toujours prêt à pardonner, à effacer et à redonner à notre âme cette vigueur, cette transformation, cette vie nouvelle qui nous permettra de passer à travers les épreuves suivantes. Il y a une miséricorde infinie de Dieu et nous y croyons. Et nous y croyons d'autant plus que ce cœur percé sur la croix d'où s'écoule le sang et l'eau qui sont les grâces des sacrements que les prêtres répandront sur vos âmes, nous y croyons d'autant plus aisément que ce cœur de chair a été formé par le cœur d'une mère, ce cœur immaculé de Marie que nous implorons aujourd'hui. Et la troisième résolution, la première, je vous le rappelle, c'était de se reconnaître pécheur et par conséquent de vouloir faire pénitence. La deuxième, c'est de croire en cette miséricorde. Et la troisième de nos résolutions durant ce pèlerinage sera de se dire que si nous avons la foi en la miséricorde de Dieu est un champ infini. La miséricorde de Dieu, elle est étymologiquement parlant catholique, elle est universelle, elle dépasse les montagnes et les frontières. La miséricorde de Dieu, elle appelle, s'il était possible, toutes les âmes à se convertir et à venir vers Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est en fait un cœur qui bat au rythme qui est le rythme de l'Église. Et nous demanderons à Marie, nous demanderons à la très sainte Vierge, qu'à travers ses sentiments de mère, elle nous forge, nous, un cœur comme celui du Christ, c'est-à-dire un cœur, non pas un cœur mesquin et étroit, qui ne pense à la miséricorde que pour lui-même, mais un cœur qui croit tellement à la miséricorde qu'il bat à la dimension de l'Église. Vous connaissez tous par cœur cette page extraordinaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui cherchait à embrasser toutes les vocations, tellement elle avait envie de voir connaître cet amour du Christ. Et ne pouvant être missionnaire, ne pouvant être prêtre, ne pouvant être à la fois soignante ou enseignante, ne pouvant couvrir toutes les vocations à la fois, elle a cette phrase magnifique dans le cœur de l'Église, « Je serai l'amour ». Eh bien, dans le cœur de l'Église, chers pèlerins, vous allez marcher. Et vous marcherez en vous disant, « Nous sommes un petit peu de ce cœur du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes l'Église catholique. Nous sommes dans l'Église catholique. Et par conséquent, notre cœur qui vibre, notre cœur qui prie, notre cœur qui récite ses Ave Maria, est un cœur qui est le prolongement humain du cœur de chair du Christ qui a été percé d'une lance au Golgotha. Notre cœur prie. Il prie pour l'Église, dans l'Église et avec l'Église. Parce que nous sommes membres de ce corps mystique et notre volonté, en rendant à Dieu cette louange magnifique, de partir de Notre-Dame de Chartres, de partir du cœur de sa très sainte mère et de venir honorer son cœur en ce sanctuaire de Chartres qui est Montmartre, nous savons que nous n'avons qu'une seule idée. Et cette idée, c'est en fait de porter haut et fier notre cœur et notre âme de catholique, c'est-à-dire de prier pour l'Église, de prier pour l'avènement, l'achèvement et la perfection du corps mystique du Christ, parce que telle est la gloire du Père que nous recherchons tous, c'est que nous soyons tous sanctifiés en son Fils, notre Seigneur, dont nous sommes tous les membres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Bien, chers amis, vous n'êtes pas les premiers à marcher. Avant vous, il y en a un aussi qui a su marcher, qui a su se fatiguer pour le bien. Celui qui vous a précédé ainsi, vous le savez, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa vie sur terre, il a su se fatiguer et un jour, comme vous, il était fatigué et il s'est assis sur le bord d'un puits, le puits de Jacob. Et là, il a rencontré une femme, une Samaritaine. Et notre Seigneur lui a posé cette question, « Donne-moi à boire. » Elle est peut-être surprenante, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord parce qu'elle allait contre la loi juive. Les Juifs n'avaient pas le droit de parler aux Samaritains qui étaient des hérétiques. Et puis aussi, parce que notre Seigneur était Dieu, n'était-il pas celui qui avait créé les sources qui sont sur toute la terre? N'était-il pas plus puissant que Abraham qui a su faire sortir, par la grâce de Dieu bien sûr, une source du rocher en le frappant de son bâton? Alors comprenons Comprenons cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette eau dont il a soif? Ce n'est pas une eau matérielle, ce n'est pas l'eau pour son corps, lui qui était fatigué comme vous. C'était une eau toute spirituelle, c'était cette même eau qu'il possédait lui-même, parce qu'il possédait une eau spirituelle. Cette eau rafraîchissante de la vérité, cette eau rafraîchissante de la grâce. Et cette eau toute spirituelle qu'il demande à cette humble femme, qu'il vous demande aujourd'hui ici, cette eau spirituelle, c'est cette acceptation, c'est ce oui, c'est ce courage de demander à notre Seigneur cette eau qui rafraîchit l'âme. Quand notre Seigneur dit « Donne-moi à boire », ce n'est pas à lui qu'il pense. Il pense à nous. Il pense à notre âme qu'il aime en particulier. Alors nous ne connaissons pas suffisamment cette eau que le bon Dieu nous propose. Nous ne la connaissons pas suffisamment parce que sinon il y a longtemps que nous lui aurions demandé. Nous croyons bien souvent un peu de trop à notre eau matérielle. Nous sommes comme la Samaritaine. Nous pensons à cette eau du puits, à cette eau des secours matériels, des remèdes humains. Si tu connaissais le don de Dieu, ce n'est pas toi qui me proposerais de l'eau, mais c'est bien toi qui me la demanderais. Nous sommes comme la Samaritaine et nous disons à notre Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as rien pour puiser. Nous avons le seau de nos remèdes humains. Et si notre Seigneur a quelque chose pour puiser, ce récipient énorme, c'est son cœur qui est toujours débordant d'une eau rafraîchissante, d'une eau consolante, d'une eau enrichissante, encourageante, sécurisante. Alors, chers amis, vous qui êtes venus à la rencontre de notre Seigneur, ne le laissez pas davantage dans cette angoisse de savoir si vous allez dire oui ou dire non. Ne le laissez pas renouveler son cri déchirant de la croix. J'ai soif de ton âme. J'ai soif de ta prière. J'ai soif de ta confiance. Regardons notre Seigneur, recourons à lui. Recourons à lui dans la prière, mais pas seulement dans la prière. Consacrons toute notre vie, toutes nos œuvres, toutes nos peines à celui qui a toutes les solutions pour nous. Donnons-nous totalement à lui ce sacré cœur. Et se consacrer à notre Seigneur, c'est consacrer chaque instant, c'est faire de chaque instant une prière, c'est de faire de chaque instant un recours de foi. Consacrons nos personnes, consacrons nos instants, mais consacrons aussi nos familles, nos mouvements. Consacrons-les pour faire de ces mouvements, de ces familles, des sociétés qui sont toutes pour Dieu, des sociétés qui donnent leur confiance tout entière à celui qui nous aide, celui qui nous attend. Consacrons-nous aussi selon la forme qu'il a demandée. Consacrons-nous dans cette prière des premiers vendredis du mois, dans cette messe qui est le débordement de son cœur, dans cette messe où nous puisons tout. Et voici que nous sommes arrivés au jour de la Pentecôte. Jésus est monté vers le ciel. Peut-être nous sommes comme les apôtres. Nous sommes un peu attristés, nous sommes un peu dans la peine. Et nous disons peut-être de temps en temps dans l'épreuve, notre Seigneur nous abandonne. Si notre Seigneur ne nous abandonnait pas, il n'y aurait pas tant de malheurs, tant de difficultés, tant de divisions. Ne croyez pas ça. Notre Seigneur aime toujours autant ses brebis. Notre Seigneur a toujours autant cette soif de les rassasier, de les rechercher. Alors ne dites pas « Dieu est loin de moi ». Au contraire, Dieu, aujourd'hui, en cette fête de Pentecôte, nous envoie la consécration de son don, le Saint-Esprit. Cette force d'amour, de foi, de courage. Celui qui nous fait aimer l'amour. Alors sortons de notre cachette et si nous sommes peut-être venus ici au pèlerinage en tremblant, si nous sommes venus au pèlerinage dans la peine, dans l'incertitude, si nous nous sommes trouvés un petit peu dans la situation des apôtres, le jour de la Pentecôte, tremblant dans le cénacle, alors tournons-nous vers le cœur de Jésus. Tournons-nous vers ce cœur si aimant. Tournons-nous vers lui avec cet esprit de prière, cet esprit de confiance, confiance qui va jusqu'à la consécration de chaque instant. Sortez, chers pèlerins, de votre cénacle. Sortez pour faire comme les apôtres, prêcher cette vérité de l'Évangile, cette vérité de la foi que vous voulez garder intacte, cette vérité de la foi que vous voulez connaître par l'approche du Sacré-Cœur, par la connaissance de sa vie, de son exemple, de ses enseignements. Prenez la résolution de le prier. Prenez cette résolution de le prêcher. Allez avec les apôtres et soyez sûrs que notre Seigneur, vous envoyant ce Saint-Esprit, vous donnera la force. Il vous donnera la force de soutenir les épreuves. Il vous donnera la force de parler de ce que vous avez découvert, de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez connu un peu plus et un peu mieux. Il vous donnera ce courage et la charité de donner à vos voisins un peu de cette eau fraîche que vous avez reçue dans vos cœurs. Alors, courage, partons. Prenons notre Seigneur comme modèle, prenons-le comme modèle à chaque instant. Alors vous comprendrez peut-être un peu mieux quand notre Seigneur sera toute votre vie, cette parole qu'il nous a dit et qui nous laisse peut-être rêveurs. Je vous donne ma paix, je vous laisse dans la paix. Cette paix qui inonde l'âme, cette paix, vous la goûterez, vous la posséderez si notre Seigneur, si le Sacré-Cœur est toute votre vie et si vous avez su boire un petit peu de cette eau fraîche qu'il vous a donnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans les seins de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. Monsieur le Président, mes révérends pères, très chers pèlerins, remercions de tout cœur à l'adorable Trinité en ce lieu mémorable pour les grâces et bénédictions innombrables dont elle nous a comblés au cours de ce pèlerinage. Remercions le cœur sacré et très doux de Jésus. Remercions sa très sainte mère. Remercions aussi tous les organisateurs, tous ceux qui ont contribué à ce beau succès, à cet événement historique du parcours d'une partie de la chrétienté de Chartres à Montmartre, de la Très Sainte Vierge au cœur de Jésus. Remercions tous les prêtres pour leur service et leur dévouement. Vous tous soyez remerciés pour vos efforts, vos sacrifices, votre courage. Quel témoignage éloquent avez-vous donné et donnez-vous à nos contemporains infidèles, à ce monde ingrat et indifférent à l'égard des dons du Saint-Esprit, de l'amour du Sacré-Cœur, des larmes de sa très sainte mère. Vous avez, mes très chers amis, contemplé au long de ce parcours l'affreuse réalité du péché et la nécessité pressante de notre conversion. Vous avez guidé par Saint Jean-Euthe, Saint Marguerite-Marie et Saint Pidis, médité les cœurs très purs de la très sainte Vierge. De l'amour du Sacré-Cœur de Jésus pour son Père et les sources de salut contenues à ce cœur pour les hommes. Essayons de faire une brève synthèse pour en tirer ensuite les conclusions. C'est à la fois que Marie conçoit son enfant divin par l'opération du Saint-Esprit. Dans la charité, elle coopère à la formation dans son sein virginal de l'homme-Dieu avec son Sacré-Cœur plein d'amour, Jésus-Christ, avec son corps de sacrifice et son sang rédempteur, avec son âme sacerdotale royale et sa volonté de s'offrir comme victime pour les péchés des âmes. De la même manière, Marie participe à la formation des membres du corps mystique de ce chef. C'est elle qui est présente au fond baptismaux où l'âme est assimilée à sa conception immaculée. Comme épouse du Saint-Esprit, elle est présente à la confirmation. Dans l'Eucharistie, nous sommes nourris par la chair que Dieu a pris en elle. Au tribunal de la pénitence, nous sommes purifiés par le sang formé en elle. En un mot, Marie opère sans cesse dans la vertu du Saint-Esprit afin que, selon notre destinée, nous soyons configurés à l'image du Fils de Dieu. C'est elle qui forme l'homme apostolique en nous. Par son intercession, le Saint-Esprit infuse ses dons, ses fruits et ses béatitudes dans les cœurs des apôtres qui, à partir de ce moment, dans sa force, parcourent le monde pour annoncer Jésus crucifié et ressuscité. Un de leurs, le voyant de Patmos, le décrit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, dans toute sa gloire et sa splendeur, sur un trône au milieu de cette église d'Asie, figure de l'église universelle, qu'il enseigne et qu'il illumine par son Saint-Esprit, qu'il sanctifie et perfectionne, qu'il dirige et gouverne. C'est lui l'alpha et l'oméga, le Kyrios et le Pantocrator qui veut établir son règne de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, de justice, d'amour et de paix en toute âme, en toute famille, en toute école et en tout hôpital, en tout tribunal, en tout parlement et gouvernement, en toute nation. Et c'est Marie qui prépare ce règne universel comme elle a préparé la révélation de sa gloire dans son service humble à Cana. C'est elle qui, à travers de l'histoire du salut, défend la divinité de son Fils et, comme conséquence, son règne universel. Elle inspire Saint Jean dans ses écrits contre les docètes. Elle obtient à Saint Athanase la force dans le combat contre les Ariens. Saint Cyril d'Alexandrie, qui la vénère et qui la glorifie, dénonce et condamne les erreurs christologiques de Nestorius. La très sainte Vierge entre en scène dans le combat de la chrétienté contre l'islam, dans la bataille de Poitiers de Charles Martel, dans celle de Lepanto 1500 71, dans celle de Vienne de 1683. Encore aujourd'hui, elle défend ses enfants dans son Immaculée Conception contre l'immoralité et la corruption de nos jours, dans son Assomption contre le matérialisme et l'attachement aux biens terrestres de nos contemporains, dans sa virginité contre les attaques diaboliques contre l'Église, son sacerdoce et sa messe, comme femme de foi contre l'apostasie des individus et des nations. Marie n'est pas œcuménique, mais missionnaire et apostolique. Elle ne connaît pas le pluralisme des religions, mais la seule vérité. Elle ne connaît pas ce culte humaniste et novateur, mais seulement le sacrifice catholique de nos autels. Elle ne pactise pas avec l'ennemi, ne dialogue pas comme Ève avec le serpent, mais lui écrase la tête. Marie est intégralement catholique, missionnaire et apostolique. Elle est pour son Fils. Elle est dans la vertu et puissance de Dieu, Esprit vivant. Elle nous enseigne comment il faut prier cette affirmation du Gloria. C'est vous le seul Saint, vous le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Quelle conclusion, mes chers amis, faut-il donc tirer de ce pèlerinage? Comme enfants de Marie, nous devons, selon Saint Louis Grignon de Montfort, nous mettre totalement à son service, être ses esclaves, et ceci pour un double but. Sous sa protection et sa direction, nous devons, par nos paroles, par notre exemple, par notre action apostolique, mettre en fuite les innombrables ennemis de son Fils et de son Église. Dans la bataille de Dieu, ce n'est ni le nombre qui compte, ni les raisonnements humains, ni la force des armes, mais la conviction personnelle et la confiance en l'aide bénigne de Dieu. C'est dans la faiblesse humaine que la force divine éclate. 300 Israélites, sous la direction de Gédéon, vainquent les 135 000 Madianites. Ou pour préciser les choses, c'est Dieu qui se sert des peu pour vaincre cette foule innombrable d'ennemis. Ne nous décourageons donc pas, mais soyons énergiques, munis de l'esprit de sacrifice. Plutôt mourir que trahir la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les socialistes veulent un monde socialiste, les libéraux un monde libéral, les francs-maçons un gouvernement mondial et une seule religion mondiale, nous autres catholiques, nous voulons un monde catholique. Il ne suffit pas de repousser les ennemis, nous devons reconstruire les murs de Jérusalem. Dans l'une de nos mains, nous tenons le glaive, mais dans l'autre, nous comptons les crins de notre chapelet. À partir de ce pèlerinage, que chacun considère comme un devoir d'honneur de réciter chaque jour le chapelet, voire le rosaire. Nous devons ensuite éclairer, conseiller, corriger, encourager, rétablir et guérir. Nous devons aimer et souffrir dans notre propre cœur. N'imitons pas les 99% des chrétiens d'aujourd'hui qui murmurent contre la croix de Jésus ou qui demandent qu'elle leur soit enlevée. Prions plutôt que la très sainte Vierge nous obtienne la force du Saint-Esprit pour la porter. C'est à travers une croix longue d'une vie que l'image du Fils de Dieu éclate en nous. C'est la sainteté qu'il faut viser. Cette sainteté s'acquiert, mes chers amis, à l'exemple de nos ancêtres regroupés autour des sanctuaires des missionnaires, par la communion fréquente et fervente qui transforme toute notre vie familiale et professionnelle à l'imitation de la victime de nos autels. C'est dans cet auguste sacrement que notre Seigneur nous communique le Saint-Esprit, puisque c'est le Christ en tant que Dieu qui l'envoie, c'est Jésus en tant que l'homme qui le demande au Père. Et c'est Jésus-Christ qui, dans sa divinité et son humanité, est présent vraiment, réellement et substantiellement dans les tabernacles de ces chapelles, de ces jeunes prieurés, écoles et maisons de retraite. Et enfin, nous devons organiser une croisade de prière, une prière incessante pour les responsables dans la société et dans l'Église. Nous devons organiser une adoration perpétuelle du Saint-Sacrement comme elle est organisée dans ce sanctuaire de Montmartre depuis plus de 100 ans. Le pèlerinage de Chartres à Montmartre doit être partout parce que c'est le parcours conçu par la sagesse divine. Per Mariam ad Jesum, par Marie à Jésus, afin que Jésus, par l'intercession de sa très sainte mère, règne dans les âmes et dans la société régénérée par la grâce du Saint-Esprit. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous, ainsi soit-il.
Chers pèlerins, nous voici rassemblés au terme de nos 3 jours de marche, de prière et de pénitence sur ce mont des martyrs au cœur de Paris. De Notre-Dame au Sacré-Cœur, source de vie, en réparation des crimes de l'avortement, tel fut le sens de notre prière. Au pied de cette basilique, élevée en présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands encore qui la menacent, suivant l'expression même du vœu national, nous affirmons solennellement notre refus sans appel des lois de mort qui ruinent et défigurent nos patries. Nous sommes ici en famille pour témoigner de ce que le triomphe des méchants demeure périssable. Le crime abominable de l'avortement crie vengeance. Face à ce suicide collectif, le salut ne peut venir que du Sacré-Cœur de Jésus, roi et souverain maître de toutes choses. Cette restauration d'une cité catholique sera d'abord l'œuvre des familles chrétiennes. C'est à une croisade de la sainteté de nos familles que la dureté des temps nous appelle. C'est dans l'exercice tranquille et résolu des vertus familiales que commenceront à se forger les institutions chrétiennes auxquelles nous aspirons. En effet, comme le disait le grand pape Pie XII il y a déjà 40 ans, il serait blâmable de laisser le champ libre pour diriger les affaires de l'État aux indignes et aux incapables. Ces institutions, animées par l'esprit de vérité, seront la récompense accordée à la France fervente, pénitente et reconnaissante dont nous n'aspirons à être que l'avant-garde. Cependant, comment ne pas mesurer l'étendue de notre détresse au pied de cette basilique du Sacré-Cœur, fermée à nos prières, comme le fut la cathédrale de Chartres il y a 3 jours? Le peuple chrétien ne comprend pas l'ostracisme dont nous sommes les victimes. Aujourd'hui, l'exclusion ne s'exerce plus que contre les catholiques de tradition, fidèles au sacrement et au catéchisme de leur père. Les chantres mitrés du dialogue tout azimut nous excluent sans même nous entendre. Lequel parmi eux a protesté contre l'injustice de ces lieux de culte fermés à nos prières, alors que se multiplient les cérémonies communes avec les protestants, les orthodoxes, voire les bouddhistes dans nos églises? Face à cette persécution, notre résistance catholique marque le réveil traditionnel de nos pays. Elle se place sous le signe d'une double fidélité. Fidélité à l'Église et donc à son chef légitime, à qui incombe la charge de gouverner la barque de Pierre conformément à la tradition. Fidélité à Monseigneur Lefebvre, qui a su s'opposer à l'autodestruction de l'Église par son œuvre de restauration du sacerdoce catholique. Qui niera que les indultes divers pour la célébration de la messe tridentine qui fleurissent ici et là et dont certains viennent aujourd'hui même de bénéficier à Chartres sont le fait de la résistance opiniâtre du fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Dans cette guerre qui nous est faite, nous resterons fidèles à l'intégralité des promesses de notre baptême, quoi qu'il en coûte. Nous continuerons à demander justice pour l'Église, pour la tradition et donc pour Monseigneur Lefebvre. Notre appel au Saint-Père de l'an dernier reste d'actualité, même s'il est demeuré sans réponse. Catholiques romains, profondément attachés à l'Église de toutes les fibres de notre être, nous voulons contribuer à cette renaissance catholique dont nos patries ont tant besoin. Fortifiés par les prières et les pénitences de ces trois jours, animés de l'Esprit Saint qui n'est autre que l'Esprit de l'Église, que nous souhaiter, si ce n'est la fidélité aux grâces reçues et la persévérance dans le cadre de nos activités tout au long de l'année. Si Dieu veut, plus nombreux encore, nous cheminerons à la Pentecôte 1991 de Notre-Dame de Chartres au Sacré-Cœur de Montmartre pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes.